Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, la tempête Xynthia en février 2010, le nuage de cendres du volcan islandais en avril de cette même année, l'ouragan Katrina en 2005 en Louisiane ou encore les tempêtes de 99 en Europe, ces événements climatiques extrêmes, puisque c'est ainsi qu'on les nomme, seraient-ils de plus en plus nombreux ? Aurait-il un lien avec le réchauffement climatique ? Y sommes-nous de plus en plus vulnérables et notre société doit-elle s'organiser différemment sur le plan économique et sur le plan de la gestion du territoire ? Autant de questions auxquelles vont pouvoir répondre nos deux invités, Stéphane Algat et Henri Descamps. Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au studio de Canal Académie. Je précise tout de suite que vous venez de publier un rapport de l'Académie des sciences qui s'intitule « Événements climatiques extrêmes à réduire les vulnérabilités des systèmes écologiques et sociaux », un rapport disponible début juin 2010 aux éditions EDP Sciences. Un rapport qui, comme son nom l'indique, s'intéresse à la fois à l'impact des événements climatiques sur les systèmes biologiques et l'impact socio-économique et donc l'aspect humain. Henri Descamps, pour vous présenter, vous êtes membre de l'Académie des sciences, biologiste, écologue, et vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, au laboratoire d'écologie fonctionnelle. Et vous êtes l'animateur principal de ce rapport. Et Stéphane Algat, vous êtes ingénieur à Météo France, économiste au CIRED, Centre international de recherche sur l'environnement et le développement. Vous avez participé à l'élaboration de ce rapport qui a nécessité, et je le précise, également la collaboration d'autres scientifiques. Alors démarrons tout de suite par les objectifs de ce rapport. Ce rapport est-il une manière d'alerter les politiques ainsi que le secteur des assurances ? Stéphane Algat, pour commencer.
Je crois qu'il ne faut pas limiter les destinataires au rapport. On voit bien que les événements comme ceux qu'on a constatés récemment, la tempête Xynthia, le nuage de cendres, mais aussi tous les risques cycloniques, tremblements de terre, après celui d'Haïti, etc., ne touchent pas seulement les gens qui sont spécialisés dans le domaine des catastrophes et des événements extrêmes. C'est des événements qui touchent la société dans leur ensemble. C'est même comme ça qu'on les définit, des événements qui perturbent le fonctionnement des sociétés d'une manière qui touche tout le monde. Donc c'est un rapport qui s'adresse plus spécifiquement aux gens dont c'est le métier de gérer ce type d'événement. Mais je crois que plus largement, on a envie de s'adresser à la société dans son ensemble pour parler de ces grands risques qui nous concernent tous.
Henri Descamps, vous qui êtes l'auteur principal de ce rapport, qu'est-ce que vous pourriez nous ajouter en plus de la parole
oui,
de Stéphane Algat?
Ce que je pourrais ajouter, c'est que d'abord ces événements climatiques extrêmes dont on parle dans ce rapport, ce sont des phénomènes météorologiques exceptionnels par leur intensité ou par leur durée ou par leur ampleur. Et on a tous en tête les tempêtes, les incendies de forêt, les sécheresses, les inondations, les vagues de chaleur, etc. Et la raison principale de ce rapport, tout à fait au départ, c'est qu'il est clair que depuis quelques dizaines d'années, nos sociétés sont de plus en plus vulnérables à ces événements et qu'il nous semble bien qu'elles perdent leur capacité à y faire face, pour toutes sortes de raisons, parce qu'il y a des accumulations de personnes dans des centres urbains, que ces centres urbains sont dans des zones à risque, qu'on oublie un peu ce qui s'est présenté dans les dernières années. Et par conséquent, comme le disait Stéphane Algat, c'est vraiment à la société tout entière que ce rapport essaie de s'adresser.
Et nous allons aborder tous ces points au fur et à mesure de l'émission. Débutons, si vous le voulez bien, par les derniers événements en France qui vont nous permettre d'aborder à la fois les problématiques écologiques et économiques des événements climatiques extrêmes. Xynthia, la tempête de février 2010, a marqué les esprits puisque cette tempête, associée à une forte marée, a provoqué la mort de 53 personnes en une nuit et le coût est estimé à 1,5 milliard d'euros pour les assurances. Question au regard de cet exemple, est-ce que la France est préparée aux événements climatiques extrêmes ? Henri Descamps.
Alors ce que je voudrais dire à propos de cette tempête Xynthia, c'est que d'abord c'est le plus récent de toute une série d'événements, chacun avec des pertes considérables, y compris en vie humaine. Et si on essaie de faire un petit bilan, très rapidement fait, rien qu'en France, sur les 20 dernières années, on peut rappeler d'abord les tempêtes et les inondations qui ont eu lieu dans le nord et dans l'ouest de la France en janvier-février 1990, qui ont fait plus de 80 morts. Ensuite, la crue de Louvèze à Vaison-la-Romaine, dont tout le monde se souvient, en 92. Puis les tempêtes Lothar et Martin, 92 morts en 99. La canicule en août 2003, dont on se souvient évidemment encore. La tempête Klaus, etc. Et Xynthia, c'est vraiment le plus récent de ces événements, si on accepte ce qui vient de se passer sur la Côte d'Azur. Mais ce dont on est sûr, c'est que ce n'est pas le dernier. Ce n'est pas le dernier, il y en aura d'autres qui surviendront. Et le deuxième point qu'il faut souligner, c'est que nous sommes sûrs aussi que ces événements à venir, ils nous prendront tous par surprise, comme Xynthia nous a pris par surprise. Et ceci, quelle que soit la qualité des prévisions prévisions météorologiques. Par exemple, la tempête Xynthia, on peut dire qu'elle a été très convenablement prévue par Météo France, mais elle a coïncidé avec une marée exceptionnelle, avec la présence de digues inefficaces ou mal entretenues, avec des maisons qui étaient totalement inadaptées à la situation où elles étaient. Donc tout un enchevêtrement de causes et une complexité telle que ce n'est qu'après coup qu'on a réalisé que cette catastrophe, elle devait arriver un jour ou l'autre. Ça, c'est les deux points, il me semble, importants à souligner, de mon point de vue, à propos de cette tempête Xynthia.
Donc, la France a les éléments nécessaires pour pouvoir éviter de telles catastrophes, limiter en tout cas de telles catastrophes, Stéphane Algat.
Si la question est de savoir si la France est bien préparée, on peut dire que si on compare avec ce qui se passe dans le reste du monde, la France est plutôt un pays qui est bien préparé. En particulier si on compare avec les pays en voie de développement, qui aujourd'hui consacrent très peu de moyens à la gestion des risques extrêmes, tout simplement parce qu'ils ont des problèmes beaucoup plus immédiats, beaucoup plus récurrents. Donc on peut dire qu'on est quand même extrêmement bien protégé en France. Si on rentre un petit peu dans les détails, on voit que ça dépend beaucoup des endroits et ça dépend beaucoup des types d'événements. Alors déjà, si on regarde les zones cycloniques en France, si on prend la Réunion ou les Antilles, on voit que la notion de risque météo est beaucoup plus importante là-bas qu'ici, tout simplement parce que le risque est plus important, on sait très bien y faire face. Finalement, les cas où les dommages sont particulièrement importants, et c'est vraiment ce qui vient d'être dit, c'est les cas qui sont surprenants. Alors, le cas de Xynthia est intéressant parce que des inondations côtières comme celle-ci, il n'y en avait pas eu en France métropolitaine depuis très longtemps. Et donc, on voit que c'était un risque qui avait été un petit peu oublié et que quand un risque est oublié, on fait moins attention et on s'aperçoit à ce moment-là que les digues ne sont pas entretenues et qu'elles ne sont même pas toujours connues. C'est-à-dire qu'on n'a même plus un inventaire des digues et de leur état. La canicule de 2003, c'est un peu la même chose. Un événement tellement intense qu'il surprend à peu près tout le monde, avec des conséquences absolument dramatiques. Et quand en 2006, trois ans plus tard, on a un événement qui n'est pas aussi important, mais qui est quand même assez grave, on voit la différence, c'est-à-dire que tout de suite, les acteurs de la santé, des services d'urgence ont réagi, et on a des bilans humains qui sont très très inférieurs, tout simplement parce qu'on n'est pas surpris. Donc il faut bien voir, les événements vraiment dramatiques en général, c'est des risques qui sont là, mais qu'on avait un petit peu oubliés. Et là où c'est toujours un peu paradoxal, c'est que plus on est protégé, moins on a d'événements dramatique. Et donc, il y a une perte du sentiment de risque dans la société. Et l'exemple typique, c'est les maisons de Camargue, où avant, le rez-de-chaussée était réservé au matériel agricole et aux animaux. Maintenant, on est beaucoup mieux protégé, les inondations sont rares, donc on en fait des habitations. Et le jour où une digue lâche, on a des bilans humains qui sont beaucoup plus lourds. Donc, ce qui est le point qui me paraît vraiment essentiel, c'est la mémoire du risque. Et c'est ça qui décide si un risque est bien géré ou pas en général.
Est-ce cette mémoire du risque qui semble avoir été oubliée, restons sur cet exemple de Xynthia, qui semble avoir été oubliée dans la construction de ces maisons en bord de mer? En d'autres termes, ces maisons qui aujourd'hui font l'objet de débats, doivent-elles être détruites pour une part d'entre elles ou pas? La question, c'est de savoir s'il faut tout détruire pour repenser le réaménagement du territoire.
Alors, le fait qu'il faille réfléchir à l'aménagement du territoire et tenir compte des risques dans cette réflexion, ça, je crois que personne ne le conteste aujourd'hui. Si on regarde ce qui a été dit suite à la tempête, en gros, on a eu deux opinions très fortement affirmées. L'une étant, il faut protéger beaucoup mieux. L'autre étant, il faut se retirer des zones à risque et donc, effectivement, détruire ce qui est en zone inondable. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'aucune de ces deux stratégies n'est opérationnelle. On peut protéger aussi bien qu'on veut, une digue, ça peut toujours lâcher. Donc il ne faut pas croire qu'on peut se protéger à 100%. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas considérer que parce qu'on a des digues, on peut faire n'importe quoi derrière. Ça, c'est vraiment très important. Et l'autre option qui consiste à dire on va tout raser dans les zones inondables, il faut bien comprendre que si les gens s'installent dans ces zones-là, c'est pas par hasard, c'est aussi parce que c'est des zones qui sont dynamiques économiquement. On est en général proche de la mer, donc proche d'activités soit touristiques, soit d'activités portuaires, soit les centrales nucléaires par exemple sont refroidies à l'eau de mer. Donc il y a des raisons de se mettre sur la côte et dire on ne s'installe plus en zone inondable, tout simplement ça ne marche pas parce qu'il y a des raisons de s'y installer et on peut vouloir accepter un certain niveau de risque, parce qu'il y a des bénéfices à en retirer. Aux États-Unis, on ne va pas supprimer la Nouvelle-Orléans alors que c'est un port qui est extrêmement important dans l'économie américaine. Donc il y a de bonnes raisons d'y être, il y a un risque qui est associé. Et donc la question, ce n'est pas de démolir tout ce qui est en zone inondable ou de se protéger avec un risque zéro. La question, c'est de définir quel est le niveau de risque qu'on accepte en fonction des bénéfices qu'on retire à être installé dans un endroit. Le problème, c'est que c'est beaucoup plus subtil d'abord, et aussi que définir ce niveau de risque, ça demande beaucoup de science. Ça demande du travail, mais ça demande aussi un débat politique, ça demande un choix politique. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est dans l'articulation entre l'information scientifique et le débat public, démocratique, politique, qu'il y a des fois des difficultés pour faire transmettre l'information. Et on voit que la précipitation qui a suivi la tempête Xynthia, vouloir définir des zones noires en l'espace de quelques semaines, finalement empêche le moment démocratique, le débat, la discussion. La solution apparaît comme technocratique et sortie de la poche des experts. Et ça ne marche pas, parce que pour qu'un risque soit défini comme acceptable, il faut bien qu'il y ait un processus politique qui définisse ce qui est acceptable.
Henri Descamps, sur cette question, quel est votre sentiment à vous, vous qui avez le regard plutôt de biologiste ?
Oui, ce qu'on peut ajouter, c'est qu'il faut insister vraiment sur l'importance d'une connaissance précise des lieux. Une connaissance précise des lieux et de l'histoire de ces lieux, ce que parfois on a tendance à oublier. Parce que bien sûr, il faut se méfier des zonages à la louche qui vont ignorer les cas particuliers. Et puis, il ne faut certainement pas démolir toute construction située en zone inondable. Parce que si on fait ça, il faudrait démolir peut-être, je ne sais pas moi, plus de la moitié des Pays-Bas qui est en zone inondable. Il faudrait démolir tout le cœur de Paris, y compris ici où on est actuellement. La gare d'Orsay à côté, le Louvre en face, ce n'est pas possible, ce n'est pas ça. La réalité, c'est qu'il faut s'adapter très précisément aux lieux donc, et à leur histoire. Il y a des endroits où il faut démolir, il y en a d'autres où il faut protéger, il y en a d'autres où il faut consolider. Et puis surtout, il faut construire dans le respect de la nature et dans le respect des gens également. C'est un peu ce qui était dit tout à l'heure. Et ça, c'est de l'aménagement du territoire. C'est de l'aménagement du territoire. Et l'aménagement, il ne doit jamais, ne peut jamais se faire contre la nature, mais il doit se faire avec la nature. Il ne peut pas se faire non plus contre les gens, mais avec les gens. Et puis, il doit se faire toujours en tirant les leçons des événements qui sont survenus ailleurs ou en d'autres temps. C'est la mémoire des lieux. Et ça, ce qui s'applique aux inondations, c'est vrai pour tout événement climatique extrême. Qu'il s'agisse des inondations, des tempêtes, des vagues de chaleur, etc.
Nous allons venir dans quelques instants à la nature. Auparavant, restons encore dans le domaine un peu économique, avec un autre exemple qui est également assez récent. C'est l'éruption volcanique en Islande, qui a secoué le transport aérien européen, puisque depuis le 15 avril et pendant 5 jours, un nuage de cendres a empêché les avions de décoller pendant donc une petite semaine. Et les pertes sont estimées à 31 millions d'euros pour les aéroports français. Est-ce que, à l'heure actuelle, je me tourne vers vous Stéphane Algat, puisque vous êtes l'économiste hein, au cours de cette émission, est-ce que nous avons les informations scientifiques nécessaires pour prendre de lourdes décisions sur le plan économique, à savoir stopper le trafic aérien pendant 7 jours ?
Alors là, je pense que ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il y a une notion de précaution qu'on ne peut pas négliger. L'aviation, depuis ses débuts historiques, s'est toujours construite sur cette idée de la sécurité comme priorité absolue. Et les compagnies aériennes qui peuvent se plaindre ici ou là de contraintes trop importantes n'existent telles qu'elles existent aujourd'hui que parce que les gens font confiance dans le transport aérien et acceptent d'aller se balader à 11 000 mètres d'altitude, ce qui demande une confiance dans l'entretien de l'avion et les conditions de vol quand même extrêmement importante. Donc c'est normal qu'il y ait des débats au moment où on a une interruption aussi importante qu'a perturbé la vie des gens énormément. Mais en même temps, il faut bien comprendre que c'est traditionnel dans le secteur de l'aviation, c'est la sécurité en premier, on ne fait pas décoller un avion s'il y a le moindre doute. Alors, on n'avait pas une information suffisante pour dire exactement quelle était la zone qui était dangereuse, et donc il y a eu une précaution qui a été prise de faire une zone qui était probablement trop importante, mais en même temps, on ne peut pas se permettre d'envoyer des avions voler dans des zones qui ne sont pas sûres. Quant aux moyens qu'il aurait fallu développer pour être capable de définir exactement la zone dangereuse, c'est sûr qu'on peut le faire, on peut faire voler des avions expérimentaux, etc. Mais il faut bien voir que pour un événement qui arrive une fois, c'est extrêmement exceptionnel. Est-ce qu'on a envie d'investir énormément dans des moyens de surveillance extrêmement coûteux pour finalement une interruption qui arrive de temps en temps ? Je crois que la solution qui a été prise a été la bonne. Il n'y a pas eu d'accident, c'est quand même le principal. La confiance dans le transport aérien n'a pas été touchée. Et ça, c'est un actif extrêmement important pour les compagnies aériennes dont elles ne devraient pas se plaindre. Et finalement, cette perturbation-là, elle nous rappelle que des fois, on a plus intérêt à se focaliser sur le long terme et la survie d'un secteur économique qui est le secteur des transports, plutôt que vouloir absolument faire voler des avions pendant 2-3 jours, mettant en péril toute une filière.
Henri Descamps, alors, à défaut d'éviter ces événements climatiques extrêmes, à l'image de ce volcan qui crache des cendres, est-ce qu'on peut prévenir ces événements climatiques extrêmes ? En d'autres termes, est-ce qu'il existe d'ailleurs un observatoire des événements climatiques extrêmes ?
Alors, ce qu'on peut dire, c'est que la prévention, justement, elle est à la base de toute la politique française de maîtrise des risques, avec les plans de prévention des risques, qu'il s'agisse de plans de prévention pour les risques naturels ou les plans technologiques. Et ce qu'on peut dire dans ce domaine, c'est que la défense civile a beaucoup bénéficié d'avancées en matière d'alerte et en matière de secours, qu'il s'agisse de la santé, de la météo, des incendies, des crues, même si tout peut toujours être amélioré. Et tout peut toujours être amélioré. Et les améliorations ici qui sont nécessaires, et c'est un peu ce qui est indiqué dans le rapport, elles tiennent beaucoup à l'organisation et à la communication. D'abord avec des politiques de formation et d'information pour pouvoir faire face aux situations multirisques. Ensuite, le décloisonnement des efforts et des institutions. Il faut qu'ils s'associent à la fois les opérationnels de terrain, les spécialistes des risques, etc. Et puis, il y a le partage du savoir et les conséquences de ce savoir, parce qu'il faut bien faire comprendre qu'il n'y a jamais de solution unique au problème de sécurité, à cause de la variabilité des conditions environnementales, à cause de la diversité des sociétés, à cause des échelles géographiques qui sont impliquées. Et on peut citer ici justement les actions qui ont été développées dans les Antilles françaises vis-à-vis du risque cyclonique. Et on peut citer encore toutes les actions d'organismes comme le Haut Comité français à la défense civile, sur lequel on s'est beaucoup appuyé pour l'un des chapitres de ce rapport, et des associations comme celle de la FPCN, l'Association française pour la protection contre les risques naturels. Voilà, il me semble, ce qu'on peut dire sur ce sujet-là.
Alors, je le disais, 31 millions d'euros pour les aéroports français, ce sont les pertes estimées pour ce volcan qui nous a craché de la cendre à plusieurs milliers de mètres d'altitude. Est-ce que les États et les assurances vont devoir réfléchir à une redistribution des rôles en cas de catastrophe naturelle, Stéphane Algat, puisqu'il y a toujours une question d'indemnisation des citoyens?
Alors là-dessus, il y a autant de modèles quasiment qu'il n'y a de pays, et il n'y a pas, encore une fois, de règles absolues qu'on doit suivre. Il y a une chose qui se reproduit partout, c'est que la tranche, ça les tranches de risque la plus extrême, les risques vraiment majeurs, sont toujours couverts par les États. C'est-à-dire au bout d'un moment, les systèmes privés d'assurance, de réassurance qu'on trouve dans certains pays ont toujours une limite supérieure, et c'est toujours les États qui, en dernier recours, interviennent quand la catastrophe dépasse un certain seuil. En dessous de ce seuil-là, c'est là où on a une multiplicité de systèmes qui existent. Le système français avec le système dit CatNat, c'est vraiment un partage entre les assureurs privés et l'État de tous les risques qui dépassent un certain niveau. Donc, dans les cas comme les inondations dans le sud de la France ou la canicule de 2003, par exemple, l'État joue un rôle absolument principal dans le remboursement des pertes. Et pour les risques en dessous de ce seuil-là, on est dans un système plutôt classiquement privé. En Angleterre, c'est un système qui est purement privé d'assurance et de réassurance. Alors, dans tous les cas, le secteur de l'assurance est un secteur qui est extrêmement régulé. Dans tous les cas, l'État est extrêmement présent. Et on a vu, après le cyclone Katrina à la Nouvelle-Orléans, par exemple, l'État américain modifier a posteriori les contrats d'assurance privée parce que le choc était tel que la population était en difficulté. Donc l'État a toujours un rôle absolument crucial. La question, c'est à quel niveau on fait monter le rôle du secteur privé là-dedans. Encore une fois, il y a beaucoup de systèmes qui sont différents, avec chacun leurs avantages, leurs inconvénients. Le système français est plutôt réputé pour être un système efficace, avec un vrai partage public-privé de la charge. Donc il y a des réflexions européennes actuellement, tous les pays se demandant un petit peu comment est-ce qu'ils vont faire évoluer leur système. Et le système français est plutôt considéré comme un système efficace.
Mais un système qui est amené à évoluer avec peut-être la multiplication de ces événements climatiques extrêmes ou pas du tout?
Alors la difficulté quand on a, comme en France, des risques qui sont distribués sur l'ensemble du territoire, c'est que les gens qui habitent dans des zones peu risquées payent pour les gens qui habitent dans les zones risquées. Donc on a un transfert financier. Quand on veut être, disons, négatif avec ce système, on peut dire que les gens qui vivent dans des zones sûres subventionnent les gens qui habitent dans des zones à risque, ce qui évidemment pose un problème. Et c'est de là que vient l'idée des plans de prévention des risques, c'est-à-dire de dire, quand il y a un événement extrême, une catastrophe, la France, le pays est solidaire et on partage les pertes. En échange, on va mettre des contraintes sur où il est permis de s'installer, où il est permis de construire, pour éviter que ce système-là ne serve à augmenter la prise de risque dans les zones dangereuses. Alors les PPR, il y a des endroits où ils ont très bien marché, d'autres endroits ils ont moins bien marché, le cas de Xintia en est un, où les PPR sont pas encore entrés en vigueur, ce qui, plus de 10 ans après que ça soit demandé, est un petit peu gênant. Mais on voit bien qu'un système d'assurance comme on a en France ne peut pas se construire sans intégrer dès le début des contraintes comme les plans de prévention des risques pour contrôler les risques. Donc en fait, la partie assurance qui agit après une catastrophe doit être conçue en même temps que la partie prévention qui agit avant la catastrophe. Et c'est la conjonction de ces deux systèmes-là qui permettent de gérer les risques au mieux.
Alors venons-en à la partie santé et équité avant la pause de notre émission, parce que quand on parle d'événements climatiques extrêmes, il y a souvent des pertes humaines. Comment les minimiser, ces pertes humaines, en cas de grandes vagues, que ce soit les vagues de chaleur avec la canicule, les vagues de froid, les crues ou les tempêtes, Henri Descamps?
Bien d'abord, il y a des adaptations de comportement toutes simples, comme des mesures de prudence en cas de canicule ou en cas de tempête, ou encore comme l'aide aux personnes isolées, la recherche de coins de fraîcheur, des choses comme ça. Et puis il y a, ce qui est important, tout le tissu social qui est à renforcer dans les villes, en particulier au moment des canicules. On l'a vu lors de la canicule de 2003. Mais il y a aussi des adaptations technologiques qui sont tout aussi essentielles. Et ça, c'est tout le domaine de l'architecture et de l'urbanisme. On y reviendra peut-être tout à l'heure à propos de l'urbanisme. Mais il est clair que les architectes ont un rôle considérable à jouer à ce niveau-là. Et un autre point essentiel et important, donc, c'est l'organisation des systèmes d'alerte et de prévention. sans oublier l'organisation des systèmes d'urgence. Et puis, il y a toute l'attention qui est à apporter aux suites des événements extrêmes, avec les pollutions microbiennes, par exemple, après les inondations ou après les cyclones, avec des interruptions d'eau potable, avec des destructions de canalisations, etc. Et puis, s'y ajoutent toutes les pathologies de stress qui surviennent après une catastrophe importante, toutes les névroses, etc., qu'il faut aussi prendre en compte.
Est-ce que l'OMS prend en compte ces événements climatiques extrêmes pour activer une veille sur un territoire après une catastrophe naturelle ?
Alors, c'est le cas des épidémies, qui ont une relation très complexe finalement avec le climat, parce qu'il y a de nombreux facteurs qui interviennent. Il y a le climat, bien sûr, mais il y a aussi les vitesses de dissémination des microbes, des vecteurs de ces microbes. Il y a les programmes de santé publique qui interfèrent également, qui jouent un rôle. Mais il est clair que la distribution de nombreuses maladies infectieuses est liée au climat. On pense tout de suite au paludisme. Un exemple qui est donné dans le rapport, ce sont les flambées de fièvre de la vallée du Rift en Afrique orientale, qui sont transmises par un invertébré hématophage, suceur de sang. Eh bien, ces flambées, on s'est aperçu qu'elles étaient très fortement associées à de fortes pluies. Et on a pu mettre au point des systèmes d'alerte précoce à partir des prévisions météo, à partir de données satellites pour voir dans quels endroits exactement ça pouvait avoir lieu. Eh bien, ce type d'alerte précoce, il commence à être utilisé par l'OMS, pour arriver à votre question. Il est utilisé donc par l'OMS pour instaurer des mesures qui peuvent permettre d'éviter des épidémies qui sont imminentes ou qui risquent de survenir dans les mois qui viennent.
Il y a quelques instants, vous parliez du urbanisme. Restons justement dans ce domaine-là avant notre pause. Les villes, le plus souvent, sont côtières et donc sont d'autant plus vulnérables aux événements climatiques extrêmes. Que faire pour diminuer les risques ? Cette question s'adresse à vous, Henri Descamps, mais également à Stéphane Algat. Henri Descamps, pour commencer.
Alors les villes, en ce moment, il y a deux chiffres simples à retenir, c'est que près de 10% de la population mondiale vit sur le littoral à des altitudes qui sont à moins de 10 mètres au-dessus du niveau de la mer. Et si on pense que les vagues qui ont eu lieu à Cannes, elles faisaient 6 mètres de haut, vous voyez, c'est le nombre de personnes qui peut être impliquées. Et c'est un pourcentage en plus qui est appelé à augmenter à cause de l'accélération de l'urbanisation. Et le nombre de personnes qui pourraient être exposées à une inondation de fréquence nationale qui arriverait tous les 100 ans, on a pu évaluer qu'elle pourrait être tripler, plus que tripler, entre 2007 et 2070. Donc quelque chose de très important. Et à cela, il faut ajouter le fait que l'urbanisation s'accroît, également dans les zones arides, ce qu'on oublie un peu trop souvent, notamment en Afrique, avec des risques qui sont dus à la sécheresse et aux besoins en eau. Et l'idée, c'est de considérer comment la ville peut contribuer, finalement, non pas à l'aggravation, ne pas être un facteur d'aggravation de ces événements, mais un facteur d'atténuation de ces événements climatiques extrêmes. Et c'est là, comme on le disait tout à l'heure, que l'urbanisme peut jouer un rôle tout à fait important. Et il est aussi essentiel de considérer ces effets comme résultant non seulement de l'événement lui-même, mais aussi des structures socio-économiques, politiques et techniques. Autrement dit, de travailler à ce qu'on peut appeler une compréhension des situations de crise. Une compréhension des situations de crise qui se passent sur le long terme. Donc prévenir bien avant l'arrivée de ces crises dans les villes pour pouvoir faire en sorte que ces villes soient construites non pas contre les gens et non pas en venant renforcer plus exactement les événements climatiques extrêmes, mais en venant au contraire les contrebalancer.
Stéphane Algat, sur cette question de villes côtières, que peut-on faire pour diminuer les risques ?
En fait, je vais aussi au passage revenir sur le point qu'on abordait tout à l'heure sur la diminution des pertes humaines pour bien insister sur cette idée que la gestion des risques, c'est toujours un paquet de politiques et c'est jamais une politique unique. Et donc sur les pertes humaines en particulier, on voit bien qu'il y a toujours une combinaison à faire entre la localisation des gens, où les bâtiments sont construits, où les logements sont construits, les protections physiques, les digues qu'on va installer pour protéger les gens, et puis parce que comme je le disais, une digue ça peut toujours lâcher, l'alerte et l'évacuation qui vient jouer derrière. On voit très bien dans le cas de Xintia par exemple, que les maisons qui sont derrière ces digues, finalement on pourrait peut-être se permettre de les conserver à une condition, qui est qu'en cas d'alerte, il y ait une évacuation qui soit une évacuation obligatoire. Donc on peut toujours faire un équilibre et faire un arbitrage entre le niveau de risque qu'on accepte pour des biens physiques, l'assurance peut venir aider s'il y a une catastrophe, et la partie humaine, et on peut très bien accepter de moins bien protéger les biens physiques, à condition d'investir plus dans des évacuations. Et le problème qu'on a, et on l'a vu à la Nouvelle-Orléans, c'est que la Nouvelle-Orléans avait été évacuée deux fois dans les 10 ans qui ont précédé Katrina, à chaque fois par erreur, c'est-à-dire que le cyclone avait finalement touché une autre région. Et donc à la troisième fois, quand il faut faire évacuer les gens qui ont évacué deux fois pour rien, eh bien c'est vrai que les gens ont tendance à dire « on connaît, on a déjà vu, on n'évacue pas, et pas de chance, c'est cette fois-ci qui touche, et on a des bilans humains qui sont terribles ». Donc cette question de l'évacuation obligatoire, je crois, elle est aussi posée dans ce cas-là, parce que si des gens veulent vivre dans une zone qui est dangereuse et qui ne veulent pas partir, il faut accepter le prix qu'il y a derrière, c'est-à-dire de s'en aller quand il y a un risque, parce que c'est pas seulement leur vie, c'est aussi celle des sauveteurs qui interviennent quand il y a un problème. Donc ça, c'est un premier point. Dans le cas de l'urbanisme, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de dire qu'on ne peut pas réfléchir à cette question-là de manière découplée de la question de l'accès au logement, du marché de l'immobilier, de l'accès aux emplois. Encore une fois, si les gens se mettent en zone à risque, c'est pas par plaisir d'être en zone à risque, c'est parce que aujourd'hui c'est dans les villes qu'il y a les emplois, en particulier dans les pays en voie de développement, on a un exode rural très fort, les gens cherchant du travail, et comme les villes sont en général déjà pleines, il n'y a plus de place, bah les gens vont s'installer dans les zones qui sont laissées vides, qui sont en général les zones les plus pentues, les zones les plus à risque. Donc essayer de réduire les risques dans les villes sans admettre que si les gens s'installent dans ces endroits-là, c'est pour des vraies raisons socio-économiques qui sont extrêmement fortes, ça conduit à l'échec. Il faut vraiment prendre à bras-le-corps cette question de l'accès au logement et de l'accès aux emplois. Et on voit bien dans le cas d'Haïti, par exemple, la question qui se pose aujourd'hui, c'est peut-on avoir 3 millions de personnes qui vivent à Port-au-Prince? Et quand on regarde la carte topographique de la ville, on voit bien qu'on ne peut pas avoir 3 millions de personnes dans cet endroit-là sans avoir des gens en zone à risque. Et donc, si on veut limiter le nombre de personnes dans zone à risque, on a besoin de renvoyer des gens dans les campagnes, et renvoyer les gens dans les campagnes, bah, ça ne se fait que si on fournit un moyen de vivre à ces gens-là. Et donc c'est un problème, pour ce cas en particulier des villes côtières, qui va bien au-delà de la question des risques. C'est vraiment une question d'organisation spatiale et d'organisation économique, de pays entiers parfois, et on mesure bien le défi. Si aujourd'hui on a du mal à gérer ce problème-là, c'est parce que c'est pas un petit problème, c'est un défi qui touche à toutes les grandes tendances socio-économiques qu'on observe.
Et qui s'applique à la fois aux pays industrialisés et aux pays en voie de développement?
Bien sûr, alors dans les pays en voie de développement, c'est beaucoup plus violent, parce que la population augmente, parce que l'économie croît très vite, et parce qu'on a une transition du secteur agricole vers des secteurs non agricoles qui renforce ce phénomène-là. Donc c'est beaucoup plus violent là-bas. En même temps, je dirais qu'en France, il y a beaucoup de migration aujourd'hui de la population du nord vers le sud. Alors c'est pas forcément à la recherche d'emploi, c'est à la recherche d'une qualité de vie, d'une météo plus clémente, etc. Mais systématiquement, on s'aperçoit que le problème des risques est couplé avec des tendances de fond, de comment la société change. Et qu'on a peut-être eu pendant des décennies une vision un petit peu trop restreinte de cette question des risques, en essayant de les gérer de manière découplée des autres problèmes. Et aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on touche un petit peu aux limites de ce qu'on sait faire avec des PPR. Et c'est sans doute quelque chose de beaucoup plus global sur la question de l'aménagement, sur la question de l'accès au logement, que se posent les problèmes. Aujourd'hui encore, on voit bien, dans le sud, on a une pénurie de terrains disponibles, ce qui fait qu'il y a une pression très forte pour s'installer en zone inondable. Mais si on se demande pourquoi est-ce qu'il y a cette pression sur le foncier, c'est parce que les gens s'installent dans des pavillons qui sont énormément consommateurs d'espace. Donc si des gens s'installent en zone à risque et que les risques d'inondation augmentent, c'est aussi parce que le choix d'urbanisation est un choix à très faible densité à base de pavillons. Et là, ça rejoint beaucoup d'autres problématiques, les transports, l'accès au logement, les émissions de gaz à effet de serre, la consommation de pétrole, etc. Donc on voit bien qu'on est sur des problèmes vraiment de fond et qu'on peut régler les risques, la question de ces risques, je dirais en passant, en réglant aussi beaucoup d'autres problèmes, et que ça peut éventuellement servir d'aiguillon pour régler peut-être des problèmes qu'on n'arrive pas à régler d'une autre façon.
Je vous propose de marquer une pause, si vous le voulez bien, Stéphane Algat, Henri Descamps. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. A tout de suite.
Comment sont réalisées les épées d'académiciens? Pour le savoir, rencontrez Gucci, un des plus célèbres orfèvres du monde. Au cours d'une émission Carrefour des Arts, il explique comment il opère le choix des symboles qui ornent les épées d'académiciens et celui des matériaux qui composent ces pièces uniques. Gucci évoque aussi son parcours de l'URSS à la France. Gucci et les épées d'académiciens, une émission à télécharger dès maintenant sur Canal Académie.
Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie de Henri Descamps et de Stéphane Algat, une émission qui porte sur les événements climatiques extrêmes, réduire les vulnérabilités des systèmes écologiques et sociaux. C'est aussi le titre du rapport de l'Académie des sciences, rapport sur la science et la technologie de l'Académie des sciences, animé, dirigé par Henri Descamps et auquel, Stéphane Algat, vous avez apporté votre contribution. Venons-en dans cette deuxième partie à l'impact des événements climatiques extrêmes sur le plan écologique cette fois-ci. Est-ce que, question bête, est-ce qu'on peut faire le rapprochement entre la survenue d'événements climatiques extrêmes et le réchauffement climatique, Henri Descamps?
C'est pas bête du tout. Il y a un rapprochement qui est évident, a priori en tout cas. Par exemple, c'est sûr que la montée du niveau des mers va rendre les populations côtières plus vulnérables aux fortes tempêtes. Mais ce qu'il faut tout de suite ajouter, c'est que c'est très difficile d'établir statistiquement des relations de cause à effet entre des événements extrêmes isolés et des tendances à long terme. Et il est impossible même d'attribuer directement tel événement extrême au réchauffement climatique, parce qu'il aurait toujours pu se produire indépendamment du réchauffement climatique. Alors, ce qui est vraisemblable, c'est que le réchauffement moyen accélérera le risque, le cycle de l'eau. Ça, c'est tout à fait probable. Et par conséquent, il va augmenter la probabilité d'événements pluvieux intenses et donc la sévérité des inondations, du moins en certaines régions. Ce qui est aussi vraisemblable, c'est que ce même réchauffement, il va rendre plus sévères les vagues de chaleur et les feux de forêt. À partir du moment où il fera plus chaud. Mais alors, les tendances sont beaucoup moins nettes dès qu'on passe aux questions de durée de sécheresse ou aux questions de, qui sont liées au vent, aux extrêmes qui sont liés au vent, aux tempêtes, etc.
Alors, dans votre rapport, dans le rapport que vous avez rédigé conjointement, vous donnez quelques exemples en rapport avec les événements climatiques extrêmes et les impacts écologiques. Et notamment, vous parlez de la déforestation de l'Amazonie. Il y a trois exemples, en fait, qui sont donnés plus concrètement. La déforestation de l'Amazonie, le blanchiment de récifs coralliens et la fonte du permafrost. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus sur ces trois exemples ?
Alors, sur ces trois exemples, ce qu'on peut noter, ce sont des interférences entre le changement climatique et les événements extrêmes. Ou plutôt, des possibilités que les événements climatiques extrêmes frappent des écosystèmes qui sont déjà fragilisés. C'est le cas des forêts tropicales, avec la déforestation, qui affecte la capacité de stockage du carbone, qui affecte aussi leur exceptionnelle biodiversité. C'est le cas des récifs coralliens, c'est le deuxième exemple que vous avez cité, avec le blanchiment des coraux, qui est dû au réchauffement et à l'acidification des eaux,
océans.
Et avec toutes les conséquences que ça peut avoir sur la pêche et sur le tourisme, par conséquent sur l'économie de régions entières. Et puis le permafrost, c'est-à-dire les sols gelés, qui recouvrent, on a pu l'évaluer à 10 millions de kilomètres carrés, depuis l'Alaska jusqu'en Sibérie, en passant par le Canada et par l'Europe du Nord. Et un permafrost dont le dégel est susceptible de libérer des quantités gigantesques de carbone sous forme de méthane, donc augmentation des gaz à effet de serre, ce qui peut constituer en lui-même un événement climatique extrême.
Arrêtons-nous sur un point de vocabulaire, sur le système socio-écologique, terme employé dans votre rapport. Vous insistez dessus. Qu'est-ce qu'un système socio-écologique, Henri Descamps ?
Alors, un système socio-écologique. D'abord, il faut dire que les systèmes sociaux, d'une part, et les systèmes écologiques, d'autre part, ce sont des systèmes très complexes et qui sont fortement intégrés, fortement couplés et qui ont une dynamique commune. Et cette dynamique, elle n'est pas linéaire. Il y a des ruptures, il y a des ralentissements, il y a des accélérations, et elle est difficilement prévisible. D'où l'idée d'appeler ces systèmes des systèmes socio-écologiques, à la fois sociaux et écologiques. Et ce qualificatif-là, de socio-écologique, il permet d'une part de souligner un peu le caractère arbitraire de la limite qu'on fait entre les systèmes écologiques et les systèmes sociaux, les systèmes humains, et puis il permet aussi de souligner l'appartenance des sociétés humaines à la nature. L'homme n'est pas séparé de la nature, plus exactement, il vit avec la nature, et tout ceci a une dynamique qui est commune. C'est ça l'idée de système socio-écologique.
Et comme... Si je peux peut-être ajouter un point là-dessus. Dans nos sociétés européennes, ce qu'on a fait au cours des siècles, c'est qu'on a délégué la gestion du lien entre nos sociétés et l'environnement à une toute petite partie de la population qui gère les ressources en eau, qui gère les barrages, qui nous fournit de l'électricité pour avoir du chauffage, de la climatisation. Et finalement, contrairement par exemple à la majorité de l'Afrique où les gens vivent en contact direct avec la nature. Aujourd'hui, ce lien, il est caché parce qu'on a, disons, quelques centaines de milliers de personnes dans notre pays qui s'occupent de cette gestion-là. Et donc, on a un peu tendance à oublier qu'on reste quand même dépendant de la fourniture d'eau, des conditions atmosphériques, etc. Tout simplement parce qu'on veut de l'eau, on allume un robinet, on a chaud, on allume la climatisation, on a froid, on met le chauffage. Et on ne voit pas du tout que ça n'est possible que parce qu'on a un stock d'infrastructures gigantesques et des gens de très très haut niveau qui font cette gestion-là. Et je crois qu'aujourd'hui, avec le changement climatique, avec l'épuisement de certaines ressources, c'est un peu convaincre les gens qu'on reste quand même dépendant de notre environnement, des systèmes écologiques, même si c'est vrai que c'est pas évident dans notre vie de tous les jours. Et c'est vrai que le terme permet un peu de rappeler cette dépendance permanente qui est évidente pour quelqu'un qui se balade dans un village africain, qui l'est pas forcément quand on vit à Paris.
Est-ce que ces systèmes socio-écologiques peuvent et arrivent à s'adapter aux événements climatiques extrêmes, Henri Descamps ?
Il faut ajouter autre chose qu'on oublie souvent, c'est que la première caractéristique de notre environnement, c'est son instabilité. On est dans un environnement qui change en permanence, tantôt lentement, tantôt brusquement. Et la vie elle-même, elle tente de s'adapter à ces changements depuis qu'elle existe sur la Terre. Et la vie, elle est elle-même source de changement. Et elle contribue à ce qu'on peut appeler le non-équilibre permanent des systèmes écologiques. Et donc, il ne faut pas croire que si un environnement n'est plus perturbé par des activités humaines, il reviendra à un état stable. C'est pas vrai. Il peut pas revenir à un état stable. Les états stables ne durent jamais. Et les équilibres naturels, ils sont toujours transitoires. On a affaire avec ça. Alors ça ne nous interdit pas de trouver que certains changements sont souhaitables, que d'autres ne sont pas souhaitables. Ça ne nous interdit pas non plus d'agir. Simplement, on doit bien garder en tête cette instabilité permanente de notre environnement pour bien comprendre ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire exactement. Et on doit aussi garder en tête que nos sociétés, elles sont d'autant plus vulnérables, et je rejoins un peu ce qui vient d'être dit là maintenant, qu'elles sont d'autant plus vulnérables que les catastrophes qui sont liées aux événements climatiques sont ignorées et qu'on ignore surtout la fragilité et l'instabilité des systèmes dont on tire, des écosystèmes dont on tire des biens et des services, les fameux biens et services dont on parle de plus en plus actuellement. Et ces services à attendre des écosystèmes, ce sont essentiellement, dans le cadre de ce qui nous intéresse, des services de régulation et des services de protection. On peut donner des exemples. Un premier exemple, c'est les mangroves. Les mangroves qui protègent les côtes contre les crues, contre les ouragans, contre les grandes marées. Et on a bien montré que lors de la catastrophe Katrina à la Nouvelle-Orléans, la disparition des mangroves autour de la Nouvelle-Orléans, aux environs de la Nouvelle-Orléans, avait joué beaucoup dans les effets qui ont frappé cette ville. Et en Inde, plus récemment, on a pu montrer que le cyclone qui a frappé la côte est de l'Inde en 1999, qui a tué à peu près 10 000 personnes, les trois quarts emportés par la force du courant, on a pu montrer donc que ce nombre de victimes, il aurait été trois fois plus élevé en l'absence de forêts de mangroves entre certains villages et la côte. Et ce rôle de protecteur des mangroves, il justifie donc pleinement leur conservation. Même s'il est clair que des alertes précoces, elles permettent de sauver davantage de vies, les mangroves permettent de sauver des vies. Ça, c'est un premier exemple. Le deuxième exemple sur lequel on peut insister, c'est les forêts. Ils sont aussi des socio-écosystèmes. On le prend comme exemple de socio-écosystèmes, puisqu'on prend trois exemples de socio-écosystèmes dans notre rapport, les forêts, les systèmes urbains et les systèmes agricoles. Les forêts, c'est donc un socio-écosystème. Et la forêt européenne, elle est tout à fait importante, puisqu'elle fait à peu près 37% des terres émergées du continent et qu'elle produit près du quart du bois rond mondial pour une aire qui est de 5% des forêts de la planète. Et sur la période 1950-2000, les perturbations qui affectent les forêts européennes ont renversé ou détruit 8% de la récolte annuelle moyenne européenne, c'est-à-dire l'équivalent de la récolte annuelle française. Alors une large partie de ces dommages aux forêts européennes, elle peut être attribuée à des événements climatiques extrêmes, en particulier aux tempêtes et aux sécheresses. Et si on veut réduire la vulnérabilité de ces forêts, qui nous offrent des services tout à fait importants du point de vue de la protection, il faut introduire de la diversité. Il faut introduire de la diversité, par exemple en développant des structures mélangées plutôt que des peuplements réguliers monospécifiques. Par exemple encore en réduisant l'âge d'exploitabilité de la forêt, mais pas partout, et le faire de façon mesurée pour qu'il n'y ait pas une réduction des revenus. Et un autre exemple, après tempête, ce qu'il faut aussi, c'est conserver les arbres qui ont été épargnés parce qu'ils peuvent favoriser la reprise d'une ambiance forestière.
En ce sens, et Stéphane Alcat, je vous laisse la parole tout de suite après, par contre je me permets quand même de vous poser cette question, en ce sens, est-ce que les espèces, les écosystèmes peuvent survivre à ces événements climatiques extrêmes ?
Ah, ils peuvent survivre. Ils peuvent survivre grâce à la biodiversité de leurs assemblages.
Stéphane Alcat, vous souhaitiez rajouter un élément ?
En fait, j'aurais voulu faire un parallèle entre cette vulnérabilité des écosystèmes dont parlait Henri Descamps et la même chose pour les sociétés. Le fait qu'une forêt composée d'une seule espèce est beaucoup plus vulnérable qu'une forêt qui est diversifiée. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a systématiquement un arbitrage à faire entre une certaine efficacité en situation normale et la robustesse en cas d'événement extrême. Plus on essaye d'être efficace en situation normale, plus on augmente les vulnérabilités dans des situations extrêmes. Et c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui dans le système industriel. On réduit le nombre de fournisseurs, ce qui veut dire que quand un fournisseur a un problème, ben le problème se propage dans toute l'économie. On réduit les stocks au maximum, ce qui veut dire que la moindre interruption pose problème. On fait de la production à la demande, ce qui là encore rend l'ensemble du système très vulnérable. Et donc on voit que l'augmentation de l'efficacité de notre système économique se paye à un moment par une vulnérabilité plus grande, avec des fois des surprises. On voit que quand on n'a plus d'électricité dans nos sociétés, il n'y a tout simplement plus rien qui fonctionne. Il y avait des images très impressionnantes des gens dans les hôtels à New York qui dormaient dans les couloirs parce qu'on a mis toutes les chambres d'hôtel avec des clés électriques et on s'aperçoit que les gens ne peuvent même plus aller dormir quand on n'a plus d'électricité. Donc on a poussé par cette volonté d'augmenter l'efficacité, on se retrouve parfois dans des situations où on s'aperçoit qu'en termes de robustesse et de résilience, on a énormément perdu. Et c'est vrai pour les écosystèmes et la biodiversité, c'est probablement vrai aussi pour les sociétés et les systèmes économiques.
Est-ce que ces événements climatiques extrêmes sont à l'origine, en partie, de l'évolution des espèces, Henri Descamps ?
Oui, c'est vrai qu'il y a concomitance entre l'évolution des espèces et les événements climatiques extrêmes, et que l'histoire de la vie, elle comprend des phases d'expansion de la biodiversité qui sont entrecoupées de ruptures et de diminution du nombre d'espèces. Et on peut vraiment dire que les espèces apparaissent et disparaissent en permanence dans l'évolution de la vie. Les paléontologues distinguent différents types d'événements extrêmes. Par exemple, on peut prendre en compte ce qu'on appelle la mortalité en masse, qui concerne des individus ou des populations sur une échelle locale, sans conséquence sur le nombre d'espèces ou de genres ou de familles. Et ça, c'est le résultat d'un événement qui est limité dans le temps, à la suite d'une tempête, par exemple, ou bien d'une inondation ou d'une sécheresse. Et puis, il y a des extinctions en masse. Les extinctions en masse qui se produisent durant un intervalle de temps beaucoup plus long. Dans cet intervalle, les taux d'extinction des espèces sont sensiblement plus élevés que la normale. Et ces extinctions, elles peuvent concerner des espèces, des genres, des familles et parfois des ordres entiers. Et enfin, il y a les extinctions catastrophiques qui, elles, touchent tous les écosystèmes et qui se produisent sur des temps relativement brefs à l'échelle géologique, c'est-à-dire de quelques années à quelques centaines de milliers d'années, voire un million d'années à l'échelle géologique. Et ces extinctions, elles sont le résultat d'événements majeurs, d'événements planétaires, qui sont consécutifs à des éruptions volcaniques importantes. On a vu tous les dégâts que peut faire une simple éruption volcanique sur l'ensemble d'un continent. Et ça peut être aussi des glaciations, des régressions marines, des effets de serre, etc. Et on sait que plusieurs grandes extinctions ont eu lieu dans le passé, la plus connue étant celle des dinosaures il y a 65 millions d'années.
Et une vraie question, c'est, est-on aujourd'hui dans une phase comparable à celle-ci ? Quel est le rôle du changement climatique dans une éventuelle diminution drastique de la biodiversité ? C'est des questions auxquelles aujourd'hui, je pense qu'on ne sait pas apporter de réponse définitive, mais quand on réfléchit aux efforts qu'on a envie de faire pour réduire les émissions et contrôler le changement climatique, les conséquences sur les écosystèmes, sur la biodiversité, il me semble, sont vraiment au cœur de la question. Et l'incapacité qu'on a de répondre à cette question-là, encore une fois, pousse à un comportement de précaution et de dire tant que je ne peux pas garantir que je ne suis pas en train de créer une grande extinction catastrophique, peut-être vaut-il mieux être trop prudent que pas assez.
Le temps passe et nous arrivons au terme de notre émission. J'aimerais quand même qu'on aborde les recommandations de votre rapport sur les événements climatiques extrêmes. Il y a 7 recommandations. Peut-être ne les aborderons-nous pas dans leur totalité, mais il y a quand même plusieurs points importants. Stéphane Algat, quels seraient les points qui vous semblent intéressants de souligner dans ces recommandations ?
Alors effectivement, pour sélectionner ce qui me semble vraiment essentiel, la première, c'est cette notion de résilience des systèmes écologiques, sociaux et autres, pour dire que quand on réfléchit à notre organisation sociale et économique, il y a cette notion d'efficacité qui s'impose à nous quotidiennement. La question de la résilience et de la robustesse à des catastrophes, elle ne s'impose pas à nous quotidiennement. Et donc, ça demande une vraie réflexion, ça demande un vrai travail. Et il y a un travail scientifique qui est fait sur ce sujet. Le défi, c'est de cette information extrêmement complexe, souvent incertaine, le cas du changement climatique est un bon exemple. On n'est pas capable de répondre à toutes les questions, mais on a de l'information. Il y a un défi qui est de transmettre cette information, alors aux décideurs, mais aux décideurs, c'est-à-dire aux citoyens, pour que le citoyen puisse choisir quels sont les risques qu'il accepte de prendre et quels sont les risques qu'il n'accepte pas de prendre. Et ça, ce lien entre la science et la politique, entre le scientifique et le grand public, il me semble que c'est quelque chose qui devient de plus en plus nécessaire et dont on constate tous les jours la difficulté. Donc c'est vraiment un sujet sur lequel on a tous à travailler, autant côté scientifique que du côté grand public, pour essayer de faire des progrès. Le deuxième point, c'est sur le système de prévention, pour dire qu'il faut vraiment sortir d'une vision restreinte des risques, pour essayer de prendre ces évolutions de risque dans le grand cadre des évolutions socio-économiques qu'on a aujourd'hui, et qu'il faut, là encore, arriver à faire des choix politiques. Très souvent, on voit que les choix en termes de risque ont été faits de manière très empirique au cours de l'histoire. On s'est installé à tel endroit et pas à un autre. Certaines villes ont disparu, d'autres sont apparues. Sans qu'il y ait une vraie réflexion, ça s'est fait vraiment par essai-erreur. Aujourd'hui, on voit bien qu'on n'est plus capable de faire ça. Alors, le changement climatique complique la situation parce que les choses changent plus vite qu'avant. Et donc, on a besoin sans doute de beaucoup plus réfléchir notre aménagement du territoire, nos grands choix de localisation. Il y a des problèmes nouveaux qui sont en train d'apparaître. Et là encore, ça demande que la population s'en empare et que ça ne soit plus traité par des experts et des spécialistes seulement. Il y a besoin de spécialistes et d'experts. Mais la question, c'est comment est-ce que les choix politiques sont faits basés sur l'information que ces gens-là sont capables de fournir.
Ça, ce sont les points qui vous semblent importants. Henri Descamps, le mot de la fin, quelles seraient parmi les 7 recommandations, quelles seraient celles sur lesquelles vous souhaitez apporter un éclairage particulier ?
Il y a peut-être 3 points. C'est d'abord la gestion de l'eau, parce que la gestion de l'eau, il nous a semblé qu'elle était vraiment au cœur de notre adaptation aux événements climatiques extrêmes.
Nous n'en avons pas parlé au cours de cette émission, mais effectivement, il y a toute une partie consacrée dans ce rapport à la gestion de l'eau.
Donc elle est vraiment importante, aussi bien dans les régions menacées par la sécheresse que dans les régions qui sont susceptibles d'être inondées. Dans les premières, on doit vraiment évaluer beaucoup plus précisément le risque de sécheresse et on doit adapter la demande à la ressource. Et dans les secondes, nous devons améliorer notre capacité à aménager le territoire. et à faire face à l'urgence et à nous montrer solidaires. Ça, c'est la première recommandation qui me paraît intéressante à souligner. La deuxième, c'est qu'il est de plus en plus urgent de diminuer la vulnérabilité des pays en développement, ce qui suppose d'assurer la sécurité alimentaire de ces pays, d'y réduire la pauvreté, d'y préserver les biens et les services écologiques. Et ça, c'est pas seulement une question de justice et d'équité, il y a un chapitre spécial dans le rapport, mais c'est aussi une condition de paix mondiale. C'est absolument indispensable. Et enfin, le dernier point, puisque nous sommes des chercheurs, c'est que nous avons à promouvoir des programmes de recherche fédérateurs. Des programmes de recherche fédérateurs en matière d'événements climatiques extrêmes, en particulier sur les mécanismes qui sont responsables de ces extrêmes climatiques, sur la résilience des systèmes écologiques et sociaux, on en a parlé, sur l'aménagement des territoires qui sont menacés. Et ces programmes, c'est ce que nous soulignons en fin de rapport, ces programmes, ils ne peuvent pas être menés à bien sans participation pleine et entière des sciences de l'homme et de la société, des sciences du comportement. Ce qui rejoint tout ce que nous avons dit à la fois sur les systèmes écologiques et sur les systèmes sociaux.
Merci Henri Descamps, merci Stéphane Algade. Je rappelle le titre du rapport sur la science et la technologie, les fameux RST de l'Académie des sciences. Le titre « Événements climatiques extrêmes, réduire les vulnérabilités des systèmes écologiques et sociaux ». Un rapport édité chez EDP Sciences en juin 2010. Et puis donc on y retrouvera en détail toutes les informations que vous avez pu nous délivrer au cours de cette émission, mais également bien d'autres choses, car ce rapport est dense avec de nombreuses contributions scientifiques, bien d'autres choses auxquelles le public, grand public, ou également dirigeants, exécutants, pourront trouver des informations. Merci à tous les deux, et puis je l'espère à bientôt pour de prochains entretiens. Au revoir.